le show du matin week-end.
Salut tout le monde!
Avec Carbo
Radio X.
Il revisite l'histoire.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La chronique de Max Power.
Hey, ça, c'est bon, hein? Bonjour, Max Power.
Hello!
Bon matin.
Il est en feu, Max Power, un matin.
Oui, oui, il est levé depuis 4 heures.
4 heures et demie,
merci d'être là, hein, en passant. Merci, Max Power, d'être là. Aujourd'hui, on va parler... d'abord, cette chronique-là, c'est toujours pour nous ramener dans une période où... on ne connaît pas nécessairement, ben oui, certains de nos prédécesseurs, mais sur, en l'occurrence, toi, qui est né dans les années 30. Mais
des
années 20.
Début des années 20.
Oui, mais nous ramener le contexte, hein, Mélanie, géopolitique, économique, d'une certaine période. Et aujourd'hui, Max, on est rendu en 1958.
Oui, 1958, là, c'est, d'ailleurs, c'est l'épisode 49 aujourd'hui.
Ah oui, presque 50 épisodes.
Oui, puis au début, je pensais pas qu'on en ferait 10. Là. Puis par rapport à ça, cette semaine, j'ai soupé avec notre première ministre du Québec, Jacqueline Fréchette. Puis elle me disait, « Monsieur Power, parce que j'étais avec Mademoiselle Power, ma fille. »
Ouais.
Elle dit, Monsieur Power, qu'est-ce que vous allez faire après 1959, là, parce que c'est notre auditrice numéro un.
Oui.
Puis je dis, Jacqueline, je dis, c'est quoi que vous suggérez? Puis elle a dit, ben, regarde, je n'ai parlé à Carl, puis on devrait recommencer les années 80, mais sous un autre angle. Ben, je dis, parfait.
Moi, parfait, ce sera les années 80, donc on l'apprend en grande primeur ce matin.
Ah, définitivement.
Après les vacances, au retour de la radio, le 10 août. Ouais. On recommence avec Max Power les années 80.
Ouais, il va peut-être avoir une ou deux chroniques hors série, là, comme on fait quand c'est François qui te remplace.
Oui.
Mais on relance les années 80.
Bon, ben parfait. C'est une maudite bonne nouvelle, ça.
Parle-moi
parce que
ça.
Oui, j'ai besoin de mon Max Power un dimanche matin comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1958?
1958, le lancement d'Explorer 1. Pas le Ford Explorer, là, quelque chose de plus solide que ça. En 57, on l'a vu dans le dernier épisode, l'URSS avait surpris le monde en lançant Sputnik 1, le tout premier satellite artificiel. Ça a créé une onde de choc aux États-Unis. Ils ont découvert qu'ils étaient en retard un petit peu technologiquement dans ce domaine-là. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les bouchées doubles. Puis le 31 janvier 1958, ils ont lancé leur premier satellite Explorer 1. C'était pas seulement symbolique, il était équipé d'instruments scientifiques qui permettaient, de fait, qui ont permis une découverte majeure, c'est les ceintures de radiation autour de la Terre qu'on appelle aujourd'hui les ceintures de Van Allen en l'honneur du grand guitariste. Non, ça c'est pas vrai, là, écrivez-moi pas.
Non, non, mais il s'est appelé à cause de ça.
Puis, sauf respect pour l'opinion contraire, là, Eddie Van Halen, c'est le meilleur guitariste au monde.
T'as bien raison.
Surtout de son vivant, là, il était tellement bon. Alors, cet événement, c'est important pour plusieurs raisons. Ça a marqué le début de la présence américaine dans l'espace. Ça a intensifié la course technologique entre les deux superpuissances. Ça a montré que l'espace était devenu un nouveau champ de rivalité géopolitique. On s'éloignait de l'Europe, là, qui avait été déchirée en deux après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette dynamique-là va conduire quelques années plus tard aux missions sur la Lune qui ont culminé en 1969 avec le débarquement, l'alunissage là, des Américains sur la Lune. Également, en mai 1958, la crise, grosse crise en France, c'est la fin d'un régime politique. Alors, en France, la situation politique est très instable sous la Quatrième République. Quatrième République était le régime politique qui avait été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce régime est caractérisé par des gouvernements qui changent très, très souvent, puis une difficulté à prendre des décisions fortes. Alors, en 58, on était en plein milieu de la guerre d'Algérie qui avait commencé en 54. Ça a aggravé les tensions entre les différentes factions positives en politiques en France. Puis l'armée française est engagée dans un conflit de décolonisation difficile dès le milieu des années... Bien, de fait, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a énormément de pays africains qui cherchaient leur indépendance des forces colonialistes, là, que ce soit les Britanniques, les Belges, les Français. Alors, une partie des militaires puis des colons en Algérie qui refusent l'idée d'une indépendance. Puis en mai 58, il y a une crise qui éclate à Alger. Certains militaires puis responsables politiques réclament le retour du général de Gaulle qui avait démissionné en 1946, qui considère eux autres comme le seul capable de rétablir l'ordre. Alors, face au risque de guerre civile, le gouvernement français est incapable de réagir efficacement. Charles de Gaulle revient au pouvoir, il est nommé chef du gouvernement, il fait adopter la nouvelle constitution qui a donné naissance à la Ve République en septembre 58, puis il est devenu président de la République. Alors, les conséquences sont majeures, bien, la fin de l'aventure de la 4e République, le retour d'un pouvoir exécutif fort, puis il y en a qui pensaient que de Gaulle y en profiterait pour devenir dictateur parce qu'il y avait l'armée.
Ah, ben oui, hein.
Tout. Alors, c'était effectivement un risque. Puis c'est le début d'une nouvelle étape dans la décolonisation de l'Algérie qui s'est terminée en 62. Le grand bond en avant, tu sais, tu parlais là, de la Chine en ouverture de show, là.
Oui.
Alors le grand bond en avant, c'est une transformation radicale en Chine. Alors en 58, la Chine est dirigée par Mao Zedong, le chef du Parti communiste chinois, c'est le dictateur de fait là, depuis la révolution de 49. Et à cette époque-là, la Chine est encore un pays majoritairement rural, pauvre et peu industrialisé. On cultive les graineries un à la fois. Mao veut accélérer très rapidement le développement du pays pour rattraper les puissances occidentales, surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il lance alors une politique appelée le grand bond en avant. L'idée, c'était de mobiliser toute la population dans une transformation économique massive.
Oh!
Alors, on crée des communes populaires où les terres sont collectivées. Collectivisées, la production industrielle est organisée localement, mais dirigée, parfois par des petits hauts fourneaux improvisés. La disparition de la propriété privée dans les nombreuses zones rurales.
Bon.
Alors, comme tout ce qui est géré par le gouvernement, cette politique-là reposait sur des objectifs irréalistes. Une mauvaise gestion des ressources. Il y avait ce qu'ils appellent là-bas la corruption. Là,
un peu, oui.
Ce qui est impensable ici. Là. Les chiffres de production sont souvent exagérés, puis les décisions locales sont parfois déconnectées des réalités.
Il est en feu le matin.
Alors, les conséquences sont dramatiques. Il y a une chute de la production agricole, la désorganisation économique et une famine majeure dans les années suivantes. Il a fait des millions de victimes. De fait, il y a 46 millions de Chinois qui sont morts de faim à cause des politiques gouvernementales.
Ah non. Ils sont bons, les Chinois. Ah, c'est des oui, bons, les chars chinois. Là. C'est bon.
Fais une recherche sur YouTube, là, tu sais, Chinese car on fire. Là, tu
ouais,
vois,
ouais.
Des millions.
C'est ça.
C'était un marché hot, là, le marché du char électrique chinois.
Hot.
Oui.
Matin.
Hot.
Un autre événement, tu parlais de Cuba aussi un matin. Là,
oui.
Les esprits se sont rencontrés à 4 heures un matin.
Oui.
La révolution cubaine, la chute d'un régime en Amérique latine. Alors, à Cuba, dans les années 50, le pays est dirigé par Batista, qui est le gouvernement fantoche là, des Américains. Il est soutenu par une partie de l'armée, des intérêts économiques étrangers, nommément américains, incluant la pègre américaine, tout ce qui s'appelait casino, hôtel, c'était toute la pègre qui avait ça. Mais une opposition armée se développe, menée par Fidel Castro et ses compagnons, dont Che Guevara, qui était un saint. Là,
un saint, c'est ouais, ça.
Alors que tout le monde sait que quand le gouvernement de Batista est tombé, là, il y a eu des exécutions populaires puis des procès qui durent 4 minutes. Là, puis,
oh, même pas 4 minutes, des fois.
Incluant les délais d'appel. Alors, en 58, la guérilla prend de l'ampleur, les combats s'intensifient dans les montagnes, dans plusieurs régions du pays, puis les forces de Batista commencent à perdre du terrain, le régime s'affaiblit tranquillement pas vite, puis la victoire des révolutionnaires en 58 ouvre la voie à la chute du gouvernement. Puis tout ça culmine en janvier 59 où Batista fuit le pays et Castro prend le pouvoir. Les conséquences sont importantes. Bien, la transformation de Cuba en État communiste, le rapprochement avec l'URSS, des fortes tensions avec les États-Unis. Tu sais, c'était à quelques centaines de...
Ils ont toutes laissé là, ils sont partis.
Non, mais je veux dire, c'était à la porte des États-Unis.
Ben oui,
là.
C'était à 150 000, tu sais.
Oui, 150 000, c'est une bonne ride à nage, là. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé. Alors, les États-Unis ont vu Cuba comme une menace stratégique à proximité de leur territoire. Puis ça a amené plus tard à des crises majeures comme ben, celle de la crise des missiles de Cuba qui a été résolue en 62 sous l'œil vigilant de Kennedy. Les grands classiques de 1958. Quels films sont sortis en 1958 qu'on écoute encore aujourd'hui? Alors, Vertigo, Vertige en français, de Alfred Hitchcock. Alors ça, Vertigo, ça met en scène James Stewart, un acteur très célèbre du cinéma américain, Jimmy Stewart pour les intimes, dans le rôle de Scotty Ferguson, un ancien policier de San Francisco qui souffre de vertige et de troubles liés à un traumatisme. Puis l'actrice qui lui donne la réplique, c'est Kim Novak. Kim Novak, là, vous checkerez ça, Kim Novak, pas les photos de 2024, là, les photos des années 60. Kim Novak, tu sais, c'était pour utiliser une expression technique, là, la hot babe là, des fins des années 50 et des années 60.
Kim Novak.
Très belle.
Oh, ouais, puis c'est sûr que d'aujourd'hui, là, on dirait qu'elle elle ressemble à une ballonne qui était attachée là, avec elle.
Ouais, c'est ça.
Mais,
elle a eu un accident de char, puis elle a eu la ceinture d'en face. Là.
Ouais, c'est ça.
OK, alors, Kim Novak qui joue le rôle de Madeleine, puis de Judy.
Seigneur, c'est vrai qu'elle est pas belle aujourd'hui, là.
Oui, ben c'est parce qu'elle a utilisé l'agent de comblement. Elle a tout de même 93 ans, cette dame.
Non, je pense que c'est trop utilisé.
Elle s'est faite elle-même, là, la chirurgie plastique. Ouais, et il est tôt encore.
Ah, oh, il est le bonheur. Ah oh, oui.
Alors, Kim Novak, l'histoire commence quand Scotty est engagé pour suivre Madeleine, une femme qui semble possédée par une force étrange. Très vite, elle tombe amoureuse. Il tombe amoureux d'elle. Mais cet amour devient une obsession profonde après un événement tragique, bon, blablabla, détresse psychologique. Puis, il rencontre plus tard une femme qui ressemble étrangement à Madeleine, ce qui relance son obsession, crée une spirale, blablabla. Vous l'écouterez, là, OK?
C'est alors... du Hitchcock, là.
C'est du Hitchcock. Grâce à la performance de James Stewart, habituellement associé à des rôles positifs, et celle de Kim Novak, le film gagne une grande intensité. Puis ça, c'est un fait que les films d'Hitchcock étaient très intenses. Alors aujourd'hui, Vertigo est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma mondial. Il y avait La chatte sur un toit brûlant, 58, c'est pas un film porno, c'est de Richard Brooks, c'est Cat on a Hot Tin Roof.
Ah oui?
Ouais, La chatte sur un toit brûlant, c'est un drame familial adapté d'une pièce de Tennessee Williams. Le film met en vedette... Elizabeth Taylor dans le rôle de Maggie, une
belle
femme
madame.
Déterminée. Ah oui, Elizabeth Taylor, là, c'était quelqu'un. Ainsi que Paul Newman, qui joue Brick, son mari en crise, puis Burl Ives, qui interprète Big Daddy, le patriarche de la famille. Alors, ça se déroule dans une immense propriété dans le sud des États-Unis. Brick, c'est un ancien sportif prometteur. Il est devenu alcoolique, notamment avec sa femme Maggie. Leur relation est tendue, marquée par des frustrations. Puis ils se réunissent pour l'anniversaire de Big Daddy, qui est gravement malade. Puis ça fait remonter toutes les tensions. Tu sais, un film qui est bon, comme tous les films de problèmes familiaux aujourd'hui. Mais c'est un film qui est excellent. C'est devenu un film culte. Puis il passe encore des fois dans les chaînes généralistes. C'est devenu un film grâce à la force des dialogues puis à l'intensité des performances et à la tension constante entre les personnages.
Bon, ben, je vais écouter ça à soir.
Ben, juste pour Elizabeth Taylor, ça va appeler.
Ben oui, moi, Elizabeth Taylor en Cléopâtre, là, moi oui.
Oui, oui, oui.
Ça le fait.
Tu sais, c'est Cléopâtre, là, qui a été filmé à peu près dans le même temps, je pense que c'est le début des années 60, 61. C'est un film qui a failli mettre le studio en faillite. Là.
Ah oui?
Puis ils n'ont jamais fait d'argent avec ce film-là. Ça a coûté tellement cher. Là.
Imagine, là.
Ouais. Alors, Cadillac Eldorado Brome 1958. C'est, ça,
c'est de ça qu'on parle aujourd'hui?
Ouais, on parlera pas de la Plymouth de Fury 58, là, parce que dans mon livre...
Pourtant, Christine, c'est la voiture par excellence.
C'est
lettre
à chier, là.
C'est lettre? Ben non, c'est pas lettre, c'est beau.
Ou t'avais le T-Bird 58 aussi.
Ouais, ça, j'aime. Ouais, t'as raison. Mais entre les trois, ben le Cadillac, c'est pas piqué des verres, t'as raison. Mais Christine, moi, j'adore, là.
Christine,
1958.
Fury, 1958, Christine.
Ouais. Ça, c'est un char qui était démoniaque et puis qui attaquait les amis.
De fait, il y avait, tu sais, le film Christine commence sur la chaîne de montage où le gars, il vérifie là, en dessous du hood, puis le hood se referme. Puis
sur ses doigts, ouais, c'est ça.
Oui, j'ai déjà vu ça.
Il y a toujours une toune qui passe à la radio quand le char est sur le point de tuer quelqu'un.
Oui, toujours. Le char tue des gens. Ouais, quand je fais sur Google Christine, c'est pas ça qui sort.
C'est quoi?
C'est une genre de madame avec des très gros sourcils.
Attends, tu parles de Jacqueline?
Jacqueline. J'écris Christine, ça revient à Jacqueline Fréchette tout le temps.
C'est Siri qui écoutait plus tôt.
Oui, c'est
ça. Alors, l'Eldorado Brome 1958, une vitrine technologique du luxe américain. Alors, l'Eldorado Brome 58 est l'une des voitures les plus emblématiques du luxe automobile américain de l'après-guerre. Pas seulement conçue comme un véhicule prestigieux, mais aussi comme une démonstration des capacités techniques de GM à la fin des années 50. Alors, le marché automobile il évoluait à vitesse grand V là, à cette époque-là. Les voitures deviennent plus grandes, plus confortables, plus puissantes, plus équipées. Alors, elle fait pas exception à la règle. Puis, elle était équipée d'un moteur V8 Cadillac de 6 litres.
C'était pas très gros.
C'était pas très gros. Le char était très gros, par contre.
Oui, très gros.
Mais le V8 Cadillac, parce qu'à l'époque, chaque division faisait ses propres moteurs jusqu'au début des années... fin des années 60, où il y avait eu un gros scandale. Tu sais, il y a un gars qui s'était rendu compte que dans son Oldsmobile, c'était un moteur Chevrolet. Puis Ralph Nader, s'était emparé de tout ça, puis il y avait eu un recours collectif, ça a coûté des millions et des millions.
Parce que les gens croyaient vraiment que c'était un moteur exclusif.
À l'époque, c'est ça. Cadillac faisait ses moteurs, il mettait dans les chars. T'avais Oldsmobile, t'avais le Rocket, le Oldsmobile, t'avais le Small Block Chevrolet, puis etc. Hein, puis t'avais Pontiac qui avait des... Pontiac qui a eu des moteurs
avec une cylindrée un petit peu différente.
Ouais,
mais...
c'est ça.
Puis on changeait le distributeur de place. Mais tu sais, pour vrai, là, c'était pas mal toujours les mêmes blocs pareil.
Exactement. On rajoutait des affaires autour. On faisait des trous plus gros dedans. Puissance d'environ 325 chevaux. Une boîte automatique, hydromatique. Puis les gens étaient handicapés là, à cette époque-là.
Oui.
Très sophistiqué pour les années 50. Puis c'était une propulsion arrière, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais le moteur n'était pas seulement puissant, il est conçu pour offrir une conduite souple et silencieuse qui correspond parfaitement à l'objectif de luxe de Cadillac. Mais ce qui était le plus innovant, c'était la suspension pneumatique.
Ça, c'est hot.
Tu parlais un matin également de la Citroën DS qui était la suspension pneumatique, mais les Français, eux autres, ils ont perfectionné ça. Parce que... À la place des ressorts classiques, la voiture utilisait un système à air comprimé pour ajuster la hauteur de la voiture. Encore là, on copie sur les Français pour améliorer la stabilité sur route, absorber les irrégularités avec beaucoup plus de douceur. Mais finalement, comme c'était la vitrine technologique de GM, c'était toujours brisé. Pour 58, l'Eldorado Brome était extrêmement avancé technologiquement. Alors, on a la climatisation intégrée.
Oui, ça, c'est...
Ça, c'était extrêmement rare sur les voitures de série. Les sièges électriques réglables avec mémoire.
Ça, c'est hot,
par exemple. Moi, j'ai eu ça dans un char. Fait que, tu sais, c'était toujours moi qui chauffais le char, mais j'avais un piton 1 puis 2.
Oui. J'ai ça dans tous mes véhicules.
Oui.
Puis la mémoire, c'est que je me rappelle où mon char aux Galeries de la Capitale.
OK. Mais c'était pas cette mémoire-là dans le siège. Il y avait les vitres électriques également. Tu sais, les jeunes ne savent pas qu'avant, tu avais tes power bras pour...
vite à poignée.
Les vitres à poignée. Moi, je sais pas combien de charges j'ai eu. C'était des bears, là. Tu sais, pas de power steering, pas de vitres électriques.
Non, toi, t'aimes ça tout nu, hein?
Oui. C'est moins long à réparer.
Oui, c'est sûr.
Système de chauffage avancé. On chauffait même en arrière. Et réglage centralisé du confort exemplaire. Puis certains exemplaires incluent aussi des accessoires très haut de gamme, comme des kits de voyage intégrés ou des équipements forts personnalité. Puis il y en a même qui avaient un bar.
À l'intérieur.
Mais à l'arrière.
Oui.
C'était moins pratique.
Mais c'était un bar pareil.
Oui, c'était un bar pareil.
Hey, hein?
Mais tu sais, les bars, tu avais ça dans les voitures, tu sais, les Bentley, les Rolls-Royce, ben oui. Mais à l'arrière.
Une bouteille de scotch. Comment ça se vendait, ça, un char de même, Max, en 1958?
Tout équipé, un Cadillac Eldorado Brougham, ça se vendait à l'époque 13 074 $ US, soit 145 000 $ en dollars de 2026.
OK, fait que là, on est vraiment équivalent à ce qui se fait dans le Cadillac aujourd'hui. Par exemple, en l'occurrence, l'Escalade, qui n'est pas vraiment le véhicule.
Exactement.
Mais il a à peu près le même poids, la même cylindrée. Donc, c'est à peu près pareil. Ça, c'est équivalent. C'est rare qu'on arrive à une équivalence 2026 et 1958.
Oui, puis mais tu as encore les sièges à mémoire dans l'Escalade.
Oui, t'es ça aussi.
T'es ça aussi.
Toujours la même mémoire.
C'est ça. Mais à l'époque, là, c'était la Cadillac la plus chère jamais vendue.
Ah, c'est sûr.
En chiffre absolu, là. C'était plus cher que presque toutes les voitures américaines de luxe. Tu avais à l'époque les Packard, qui étaient un peu sur une pente descendante, mais qui visaient le luxe jusqu'à sa fusion avec Studebaker.
Lincoln.
Oui, Lincoln, l'équivalent de Ford, mais qui était... Tu sais, Ford, Lincoln, sa division est arrivée après Cadillac. Ils ont fait une division à part entière, je pense, en 56 ou 57.
Kennedy, ils aimaient les Lincoln.
Oui, ah ouais, tu sais, à mort.
Ils aimaient à mort.
OK, c'est trop tôt.
C'est le bonheur, là. Beaucoup de... Ils aimaient à mort.
Aïe, aïe. Ce qu'il y avait comme option sur ce char-là, ben, tu sais, l'air climatisé qui était intégré, alors c'était 400-500 pièces de plus. La suspension pneumatique, c'était 250 pièces de plus. Les portes électriques, tu sais, ce qui est impensable à une voiture sans ça aujourd'hui, c'était 60 pièces de plus. Les vitres spéciales teintées. 40 $ de plus, ça réduisait la chaleur puis l'éblouissement. De fait, là, c'était pour moins faire forcer l'air climatisé. Puis les phares automatiques, 30 pièces de plus, ça avait sorti en 57 avec les modèles Bel Air tout équipés.
On a encore des fois des gens qui se promènent les phares fermés. Bon, ils avaient dans les années 50 qui étaient automatiques, hein?
Oui, effectivement. Puis ça, à chaque fois que je vois ça, je remonte leur ancien quand je suis porteur du bureau, puis... je check si c'est une petite madame ou un petit vieux.
Oui, c'est ça.
C'est toujours un des deux, là, 150% du temps. Alors, évidemment, il y avait une radio AM là-dedans avec son...
son mono.
Exactement.
Voilà. J'ai regardé sur le site Internet de eBay, Motor, pour voir si je pourrais pas en trouver. Mais j'en ai trouvé un, 1958. Il y a 49 000 milles, à peu près 80 000 kilos. Avec toutes les options que tu me dis, là, vraiment toutes les options, 335 chevaux V8, 4 barils, full load, Brougham, exactement. Et comment que tu parles de prix pour aujourd'hui acheter ce char-là?
Tu vois, 100 000 $.
225 000 $.
Canadien?
Demandé.
Ah oui, demandé.
Oui, demandé.
Mais moi, le plus beau Cadillac là, de ces années-là, c'est le Eldorado convertible 59.
Oui, c'est sûr que là, oui.
Ça, là, puis les ailes arrière...
Oui, parce que celui-là, les ailes sont grandes, hein, sont prédominantes en arrière. Ouais.
Mais 59, c'est le maximum des ailes, puis ça a été l'élément de design le plus significatif du 20e siècle.
Ah oui, hein?
La portion arrière du char.
Écœurant. Oui, mais est-ce que tu avais d'autres détails?
Non, ça a fait le tour.
Pas de fun fact, rien? Ça a fait pas mal le tour?
Non, il était trop tôt.
Bon, tu pourras dire à Jacqueline, Mme Jacqueline, que tout est livré. C'est extraordinaire. Je tiens à te remercier aussi parce qu'au travers de nos sondages, Max, tu fais partie de cette réussite-là. C'est un hit à chaque fois. Et je te remercie. Fait que là, il nous reste 1959.
Oui.
Puis après les vacances, on décolle ça avec les années 80. Parce que oui, on va le faire sur un autre angle.
Oui, effectivement, pour grand plaisir de Jacqueline.
Et voilà. Merci beaucoup. On fait une mini-pause. Et au retour, on parle à Dom Fugère, Dominique Fugère, qui tire les ficelles du Grand Prix de Trois-Rivières. On va aller voir comment on est rendu avec l'essence synthétique et tout ça. On va jaser avec lui.
Go. Le show du matin. Là, là. Week-end. Radio.